Jacques Seguela, bonjour, bonjour.
Bonjour,
Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir et merci de nous recevoir au siège social d'Havas. Merci beaucoup pour
vous
votre
êtes dans le
accueil.
bureau où le grand-père de Vincent Bolloré exerçait, le père de Vincent Bolloré exerçait. Vincent Bolloré a exercé lui-même et il a d'ailleurs racheté ce building. Et aujourd'hui, c'est Yannick Bolloré qui a pris la suite.
Voilà, nous sommes dans un haut lieu.
Ça s'appelle une dynastie.
Une dynastie, nous sommes dans une immense dynastie. Merci en tout cas de me recevoir. Je voudrais commencer par une citation de Victor Hugo. Un jour, on demandait à Victor Hugo de se présenter en lui demandant « Qui êtes-vous » Et voilà quelle fut sa réponse. « Je ne suis rien, je le sais, mais je compose mon rien avec un morceau de tout. » Jacques Séguéla, et vous, qui êtes-vous?
Je suis fils de pub, c'est tellement plus simple. Avec une seule doctrine de vie, la vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Donc, je suis le combattant de mes propres rêves.
Vous êtes le combattant de vos propres rêves, et en tout cas, vos rêves vous ont
Ils m'ont
conduit.
mené par le bout du nez d'un bout à l'autre. Moi, je n'ai jamais rien décidé. Ce sont mes rêves, le destin, la vie. Qui m'a promené comme ça, d'abord à 20 ans pour faire le tour du monde, qui a duré 2 ans, et puis après pour toute ma carrière qui a commencé dans la presse, qui finit dans la pub.
D'accord, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que, en quelques lignes, vous pouvez nous retracer votre immense, immense carrière qui continue actuellement?
J'étais un très mauvais élève, puisque j'ai fait pendant un an chapeau. Sans que mes parents le sachent, évidemment, j'ai raté complètement une année de première, ce qui fait que j'ai mis 8 ans à passer mes bacs. J'ai mis 4 ans, puisqu'on passait 2 bacs par an, pour rattraper ma faute originelle. Et qui m'a fait que. M'a conduit à la pharmacie, parce que mon père était radiologue, ma mère était elle aussi médecin, et son rêve était que leur fils soit chirurgien. Ils m'ont dit, écoute, mon père m'a dit, tu es trop nul, va dans la pharmacie, ce qui n'était pas gentil de la part de ma sœur, va dans la pharmacie, parce que c'est un métier qui est à la fois au contact des gens, et qu'on sent que tu aimes le contact des gens, etc. Et la pharmacie m'a conduit à faire ma thèse de doctorat sur l'étude des marchés des plantes médicinales à travers le monde, et faire le premier tour du monde d'une voiture, en puissant deux
En
chevaux,
deux
qui est
chevaux.
la voiture rêvée pour faire ça, et qui a été mon université. Après mes 5 ans de pharmacie et ces 2 ans de doctorat, puisque la faculté a accepté que ce voyage soit un doctorat, qui m'a rendu, qui a tracé ma vie. Parce qu'au retour, j'ai écrit un livre, La Terre en Ronde, qui est le récit du voyage, qui m'a conduit à Paris Match, parce que le propriétaire de Paris Match, à l'époque, était tombé sur ce livre, a dit, mais finalement, globe-trotteur, reporter, pourquoi on n'essaye pas un globe-trotteur, qui de là m'a conduit au service militaire, où je me suis retrouvé dans la chambrée de mes rêves, Philippe Labro,
Oui.
Jules Jacquin, Emmanuel, Francis Weber, Depardieu. On ne pouvait
On
pas les
n'était
faire.
pas mieux, là oui.
Et tous ensemble, on a fait un journal dont j'étais le rédacteur en chef, qui était Tarbes, le journal militaire, qui m'a appris le métier de journaliste, qui m'a finalement mis dans les bras de Lazareff, la grande rencontre de ma vie. Et lorsque j'ai eu 30 ans, Lazareff m'a dit, ne reste pas dans la presse, François va mourir. Va dans un métier neuf, va dans la publicité. Il était d'ailleurs très copain avec Benjamin Blanchet, et un peu jaloux de la réussite de Benjamin Blanchet, lequel Benjamin Blanchet était un peu jaloux de l'aura
Oui.
De Lazareff. Et c'est comme ça que j'ai frappé à la porte de Delvire, qui était l'agence de publicité de Citroën, et que ma vraie vie a
A
commencé là.
commencé à ce moment-là. Et alors, donc vous êtes je dirais, un fils de la publicité, comme vous aimez à vous définir. Quelle est la première définition pour vous d'une publicité?
Je vous pose une question simple. Que devient la neige lorsqu'elle fond? Vous me répondez?
De l'eau.
Voilà une réponse d'annonceur. Incolore, inodore, sans saveur. Une réponse de journaliste. Pas pour un créatif, pas pour moi. Lorsque la neige fond, elle devient le printemps. Mon métier, c'est de faire de chaque marque un éternel printemps.
Un éternel printemps. Vous êtes très poète en plus, c'est C'est très beau. La publicité, donc, de faire un éternel printemps, vous êtes un homme de la communication. La publicité est-elle là pour persuader ou pour convaincre celui qui la regarde? Quelle est pour vous la différence entre persuader et convaincre?
Mais les deux mots veulent dire la même chose. Dans convaincre, il y a comme. Donc il vaut mieux essayer de persuader. Mais après tout, c'est un peu la même chose. Mais ça veut dire que convaincre, c'est finalement prendre les Français pour des cons. Persuader, c'est leur dire, écoutez, on va s'y mettre tous les deux, je vais mettre mes tripes sur la table pour vous montrer ce que peut vous apporter cette marque, ce que peut vous apporter la publicité, ce que peut vous apporter le rêve. En amour, la séduction ne se transforme pas toujours par l'acte. La publicité, c'est de transformer l'acte du produit en amour du produit. C'est finalement de passer à l'acte.
De franchir le pas.
De franchir le pas. Et c'est mieux que convaincre. C'est finalement faire que le désir soit plus fort que tout.
Oui. Alors, on va en reparler du désir, parce que j'ai une question sur le désir. Mais peut-être je voudrais citer le publicitaire américain Leo Burnett, qui affirme, je le cite, « Le secret d'une originalité efficace, ce n'est pas la création d'images ou des mots nouveaux et astucieux, mais l'identification de nouvelles relations entre des images et des mots familiers. » Comment se passe, Jacques Segala, cette unité, cette union entre les mots, finalement, et l'image? Comme vous êtes le père des slogans dans la publicité, il y a beaucoup de slogans. Comment vous essayez de mettre en symbiose les deux?
Au début, est le verbe. Moi, je dis au début, est le mot. Ce sont les mots qui écrivent l'histoire. Les images ne sont que les sous-titres des mots. Si vous regardez La Force Tranquille, j'aime bien La Force Tranquille. Je vous dis, si vous regardez la petite église de Sermage, ou si vous regardez François Mitterrand,
c'est ça.
Je veux dire, et vous-même, vous m'interrogez sur La Force Tranquille. Bon. Donc ce sont les mots qui restent. Pourquoi? Parce que les images s'envolent, les écrits restent. Et les mots, c'est l'écrit par rapport à l'image. D'ailleurs, lorsque j'étais à Paris Match, Théron, qui était mon patron, était le président des journalistes à ce moment-là, a écrit ce magnifique slogan, le choc des images, le poids des mots. Et le choc des images passe, tous les chocs s'effacent. Le poids des mots reste et demeure. C'est pourquoi je suis tellement amoureux des slogans, et je pense qu'une marque sans slogan, c'est comme un baiser sans moustache.
J'aime beaucoup la métaphore. Mais je pense que vous n'êtes pas resté insensible au cercle de pensée Devenir pour agir, qui est un slogan. C'est un cercle d'anthropologie. Ma question est la suivante. Apprenez-vous tous les jours à vous connaître à travers la publicité? Est-ce que la publicité est un miroir pour vous?
Oui, la publicité est un miroir pour moi, mais c'est la vie qui est un miroir. Moi, ce que j'aime, c'est mettre la publicité dans la vie, pas dans la philosophie. La philosophie de la publicité, c'est la philosophie du quotidien. Et comment apporter chaque jour un peu mieux de moins consommer, mais mieux consommer aux consommateurs. Je comprends très vite que trop de pubs tuent la pub. Et donc il fallait une pub racée, une pub différente, une pub poétique, une pub qui vous remonte un peu les tripes. Mais j'ai compris aussi, j'ai mis plus de temps à comprendre ça, mais c'est ce qui est capital. 80% des marques que j'ai fréquentées au XXe siècle, et j'en ai créé quelques-unes, sont mortes avec le siècle.
D'accord.
80% des marques que l'on consomme aujourd'hui vont mourir avec le siècle. Donc dans le publicitaire, il y a un double devoir. Il y a le devoir d'assurer le quotidien, d'assurer les ventes. Mais derrière cette assurance de vente, il faut qu'il y ait une assurance vie,
oui,
de vie éternelle de la publicité. Parce que l'an dernier, on a fêté les 100 ans de Citroën. J'ai même écrit un livre là-dessus, sur les 100 ans de Citroën. C'est pour moi Bon, Love Story
c'était votre réussite.
C'est le plus beau livre que j'ai écrit. Ce n'est pas pour ma réussite à moi, c'est la réussite de Citroën, d'image après image, qui a commencé avec André Citroën. Bon. Je me suis rendu compte que Citroën n'avait pas 100 ans. Citroën avait 20 ans.
Oui.
Citroën avait l'âge de mon tour du monde. Citroën avait l'âge de ma pub. Coca-Cola va fêter ses 130 ans. Mais Coca-Cola n'a pas 130 ans, il a 20 ans. Il a l'âge de sa musique, puisque sa publicité a toujours été une publicité musicale pour toucher les jeunes. Il est capital que chacune de son action sur une marque soit une picousse de jeunesse pour la laisser, non pas à la vieillesse, mais à l'éternelle jeunesse, comme je l'ai dit.
Comme vous aimez le dire, oui.
Moi, je me souviens que lorsque François Mitterrand a été élu, un mois après, il me téléphone personnellement et il me dit « Ce gars-là, j'aimerais déjeuner avec vous. » Oui, monsieur le Président, moi, je m'attendais à une nouvelle, donc à la fin du monde. Bon. Il me dit « Ce gars-là, vous m'avez fait un beau cadeau avec cette campagne, car lorsqu'il m'avait contacté, il m'avait dit « Je suis socialiste, on n'a pas d'argent. Donc, je voudrais vos services, mais comment vous payez ?» Président, c'est des problèmes déjà réglés parce que moi je me prépare à cette campagne depuis des mois. Je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Angleterre, voir toutes les évolutions. Mais je veux que cette campagne soit gratuite. Je ne veux pas être la péripatéticienne de la publicité politique. Et donc il m'a dit, écoutez, vous m'avez fait un beau cadeau, je vous dois un cadeau. Mais vous êtes un mec un peu particulier pour moi, un peu compliqué pour moi. Donc dites-moi le cadeau qui vous ferait plaisir. Passe une semaine, je revois Mitterrand, travailler tous les vendredis ensemble. Et je dis, monsieur le Président, au fait, j'ai réfléchi à mon cadeau. Je veux que vous m'offriez une journée avec le Dalai Lama. Je dis, quoi, le Dalai Lama? Mais qu'est-ce que vous êtes président de la République? Je veux le Dalai Lama. Bon, le temps passe. 6 mois, 8 mois, 10 mois, au 14e mois, que téléphone de sa secrétaire, Marie-Pierre Parigui, qui dit, Jacques, j'espère que tu es libre pour ce soir avec ce lit, parce que le président aimerait vous avoir à sa table.
C'est un honneur, c'est.
On est au 4e étage dans les appartements du président, qui sont toujours là d'ailleurs, un peu surannés en plus. Bon. Daniel Mitterrand, François Mitterrand, Sophie, moi, chez lui. 5 minutes. 10 minutes, Mitterrand n'acceptait pas une minute de retard. Lui était toujours en retard, mais il n'acceptait pas que les gens qui recevaient soient en retard. 15 minutes arrive le Dalai Lama. Bon, et comme pour s'excuser, il dit, monsieur le Président, est-ce que vous connaissez la dernière fable tibétaine? C'est un vieux moine qui donne à un jeune disciple sa première leçon de philosophie. Et qui lui dit, je vais te poser 3 questions. Réfléchis bien et réponds-moi. Première question. Quel est l'envers du blanc? Le noir, répond le jeune disciple. Non, 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 lui dit le jeune disciple. Non, non, c'est la bonne réponse, mais réponds-moi. Deuxième question. Quel est l'envers du jour? Et là, le jeune bonze réfléchit et dit, maître, je vois qu'une seule réponse. L'envers du jour, c'est la nuit. Bravo, lui dit le jeune bonze. Tu as réfléchi et tu as donné la bonne question. Troisième question. Quel est l'envers de la vie? Le jeune moine réfléchit pendant 15 minutes et dit, maître, je ne vois qu'une seule réponse envers de la vie, c'est la mort. Tu n'as rien compris, lui dit le bonze. L'envers de la vie, c'est la naissance. C'est la définition de la publicité, de la durabilité, de l'éternité de la publicité. Chaque film que l'on fait, à condition que ce soit un film de talent, à condition que ce soit un film de rêve, à condition que ce soit un film d'amour, chaque film, c'est justement cette picouse d'éternité, ce morceau d'éternité, qui va faire que Citroën, dans 100 ans, dans 200 ans, 300 ans, aura toujours 20 ans. C'est pourquoi ce métier de publicitaire est un métier que les gens comprennent mal, que je crois que c'est uniquement d'essayer soit d'affoler les foules, soit de les marteler. Pas du tout. C'est un métier d'éternité.
C'est très,
fabricant d'éternité.
C'est une très belle définition, fabricant d'éternité. Vous aimez, j'ai lu dans une de vos interviews que vous aimiez dire que les publicitaires se prennent pour des procréateurs, ils ne sont que des accoucheurs. Je rappelle que Le philosophe, c'est l'accoucheur de l'esprit.
Bien sûr, mais c'est pour ça que je dis la publicité, c'est la philosophie du quotidien.
C'est ça.
Mais parce que notre métier n'est pas d'inventer. Notre métier est de créer ce qu'attend notre client, notre annonceur. Pas parce que c'est notre client, parce que c'est lui qui est le plus pénétré de sa marque. Mm-hmm. C'est lui qui a inventé sa marque, il l'a créée souvent. C'est lui qui la prolonge, c'est lui qui la dirige, c'est lui qui la protège. Donc il connaît mieux que moi, le petit publicitaire de rien du tout, ce qu'est sa marque. Et donc il faut que je l'accouche de ce qu'il a envie de dire, de ce qu'il pense profondément. Et après, que j'y mette, alors c'est mon métier à moi, que j'y mette les mots qui vont faire tilt. Ça, c'est comme ça pour la France tranquille.
Oui.
Moi, j'ai dit à François Mitterrand, qu'est-ce que vous voulez faire de la France ? Il me dit, je veux faire de la France une évolution, surtout pas à la révolution, c'est de le grand dire, mais attention, vous voulez une France forte.
Vous l'avez éclairé. Je suis heureux de voir cette proximité entre la publicité et la philosophie. Cependant, Platon dénonçait, non pas la publicité, mais dénonçait d'une certaine manière les images publicitaires, même si à l'époque il n'y avait pas de publicité. Et je fais allusion à l'allégorie de la caverne. Dans cette allégorie où on voit les formes au fond de la grotte et le soleil qui illumine ces grottes. Ma question est la suivante, Jacques Séguéla. La publicité se trouve-t-elle dans la grotte, c'est-à-dire les formes, la forme elle-même, ou n'est-elle pas ce soleil qui éclaire finalement l'humanité ?
La publicité, elle va de l'ombre à la lumière. Pourquoi ? Parce qu'elle étonne. Un jour, Cocteau, à l'Opéra de Paris, a croisé Lavillette. Et il lui dit, quelle est la définition de ton art ? Et Daguilef a réfléchi et a dit « Étonne-moi ». « Ah non !» a dit Cocteau. « Non, ça c'est la définition de mon art à moi, c'est la définition de la poésie. » Et moi je dis « Mais non, au musée, Daguilef, au musée Cocteau, ça c'est la définition de mon art à moi, c'est la définition de la publicité. » Donc la publicité, elle est pour créer justement cet étonnement qui va faire que l'on va regarder cette image qui est dans l'ombre, pour la mettre à la lumière.
Donc finalement, vous remontez la caverne, si je puis
Exactement.
Dire.
Exactement.
Vous remontez la caverne. Vous venez de dire que la publicité est un art. Cela me fait penser à une belle citation d'Umberto Eco. Et je le cite, qui affirme que la publicité est un univers de signes à interpréter. On pense bien sûr au langage parlé et écrit, où chaque mot et expression possède au sens littéral, comme au sens métaphysique et métalinguistique, une œuvre d'art, comme la musique, comme les objets en général, tout signe à interpréter. Jacques Séguéla, pour vous, en quel sens la publicité pourrait-elle être une œuvre d'art ou est-elle une œuvre d'art ?
Mais elle est le condensé, le Nescafé de tous les arts, parce qu'elle est l'art des mots, elle est l'art des images, elle est l'art de la musique, elle est l'art de la littérature, quand les mots deviennent une annonce. Elle est l'art de la poésie, elle est l'art du design, elle est l'art de la sculpture, quand elle forge des marques. C'est une sorte de melting pot de tout ce que les arts fabriquent pour le mettre au service d'un message. Et c'est là où un publicitaire n'a pas le droit de le mettre au service d'un produit qui pourrait être dangereux, pas simplement dangereux au niveau de la santé, dangereux au niveau des messages qu'il porte.
Oui.
Pourquoi je me suis toujours inquiété, j'ai toujours été contre les publicités alarmistes ou les publicités trop malsaines. Où les publicités sont sans intimité. Et je pense que si on veut que la publicité reste justement le vecteur d'une petite part de tous les grands arts, ce qui fait que c'est un art mineur, c'est prétendre être un art majeur, mais c'est un art majeur qui est la reconstitution un peu de tous les arts. Parce que finalement, la publicité, c'est quoi ? La publicité, c'est l'idée. Le nouveau média, c'est l'idée. Et l'argent n'a pas d'idées, seules les idées font de l'argent. Donc, notre métier, c'est de fabriquer des idées. Et de ces idées, l'annonceur va fabriquer des produits qu'il va vendre, mais qui ne seront plus des produits, qui, grâce à la magie de la publicité, seront des morceaux d'éternité et seront des morceaux de poésie.
Mais alors, vous définissez-vous comme un artiste ?
Non, je me définis comme le passage du produit au désir. On en est à la technologie à tout va. Bon. Et tout le monde pense que la créativité d'aujourd'hui, c'est la technologie. C'est une bêtise. La technologie, c'est un média. De plus, génial, qui permet de personnaliser sa cible, qui permet de connaître mieux les gens pour mieux leur parler. Bon, c'est un bon fantastique dans le monde, dans le monde d'après. Mais une data sans idée, c'est comme un revolver sans cartouche. Vous appuyez sur la gâchette, rien ne sort. Donc, ce qui reste maître de la publicité, maître du monde du commerce, c'est l'idée. Et plus on ira, et plus il faudra cultiver des idées, et plus elles sont difficiles à trouver, parce que plus elles ont déjà été faites 100 fois. C'est pour ça qu'il faut mettre dans chaque idée, derrière chaque idée, de l'amour. Car la tech, c'est la mort de l'amour. Ils veulent nous transformer en robots.
Oui.
Ils veulent nous c'est gentil Elon là-bas, il veut nous envoyer sur Mars. Alors on va aller sur Mars et il paraît qu'on va vivre deux ou trois fois centenaire. Mais qui a envie d'aller sur Mars, épouser une robot pour 100 ans. Mais moi, je ne veux pas me mettre dans l'île de robot, je vais me mettre dans l'île de ma femme tous les soirs, tellement pas sur Mars, mais chez moi.
Depuis le début de l'interview, vous avez utilisé quatre fois le mot « désir ». Ma question est la suivante, parce que tout à l'heure je vous ai dit que j'allais vous poser cette question. La publicité n'est-elle pas d'un certain côté manipulateur, dans le sens, fait-elle naître en l'homme de bons ou de mauvais désirs ?
Mais la publicité, c'est une autre forme de pensée, qui échappe justement l'emprisonnement dans une tradition, quelle qu'elle soit. C'est l'histoire d'une maîtresse qui donne un cours de mathématiques à ses jeunes élèves, ils ont 8 ans, 10 ans. Elle va au tableau, elle dessine un arbre, et elle dit, dans cet arbre, il y a 10 oiseaux. Passe un chasseur qui tire et qui en tue 3. Combien reste-t-il d'oiseaux ? Premier rang, une petite fille qui dit, moi je sais, madame, il en reste 7. Bravo, lui dit la maîtresse, c'est une soustraction, c'est ça les mathématiques. Mais au fond de la classe, il y a un petit garçon qui se lève qui dit, madame, non, enfin, ils sont pas débiles les oiseaux. Pensez même qu'ils sont tirés, on va retirer dessus, ils sont tirés, il en reste 0. Et la maîtresse lui dit, j'aime bien ta façon de penser. Mais ta façon de penser, elle est poétique. Elle est finalement pour le bien de l'humanité. Les mathématiques, c'est la raison, c'est autre chose. Toi, tu es la passion. Garde ta passion et sache aussi qu'il faudra composer avec la raison. Et le petit garçon a dit, écoutez, bon, si vous voulez que moi je vous pose une question, à mon tour, je vais vous dire, voilà, dans un jardin public, il y a 3 femmes qui sont sur un banc. La première, mort dans une glace. La deuxième, lèche une glace. La troisième, suce une glace. Quelle est la femme mariée ? Alors, rougissant, la maîtresse dit, je crois que c'est la troisième. Pas du tout, lui dit le petit garçon. C'est celle qui a une alliance. Mais j'aime bien votre façon de penser.
Ah oui.
C'est ça, la publicité. C'est de détourner l'attention pour vous amener au désir. Et que le désir devienne le passage à l'acte. Donc, mon métier, c'est de créer un désir qui doit être un désir sain, sinon il va être rejeté, qui doit être un désir provocateur, qui étonne, mais qui ne détonne pas, qui ne passe jamais la frontière de l'étonnement au détonnement, mais qui va séduire, et qui va séduire en profondeur, qui va laisser des traces.
qui va séduire en profondeur. Je comprends vraiment ce que vous dites et je trouve ça superbe, en tout cas votre réflexion, mais pourquoi la publicité a-t-elle besoin de la télévision pour se faire encore plus connaître? Parce qu'il y a quand même une symbiose entre les médias, la télévision et la publicité. Est-ce que la publicité peut se passer de la télévision?
Oui et non. C'est la télévision un jour qui se passera de la publicité. La publicité, elle va là où sont les médias. Et elle adore les nouveaux médias. Le média d'aujourd'hui, c'est net, c'est déjà plus la télévision. Le seul protecteur de la télévision, pour que la publicité continue d'y aller, parce qu'à l'époque, elle était à 80% sur les écrans, elle n'y est plus qu'à 50%. Oui. Ça va baisser encore, ça ne disparaîtra jamais. C'est que dans cette création d'immortalité dont je parlais tout à l'heure, quelle est notre arme absolue? C'est le format télévision, qui d'ailleurs ne se regarde plus en télévision, que les jeunes regardent sur le téléphone ou sur leur tablette, et que demain, d'ailleurs, tout le monde regardera sur la télévision, l'objet même de la télévision du paraître en droit du mur, on appuiera sur un bouton, on fera ça, et la télévision paraîtra dans le format qu'on voudra. Il y en pourra en avoir plusieurs même, on pourra suivre avec des écouteurs, on pourra suivre sur un même écran, plusieurs télévisions à la fois. Cette création d'éternité, il n'y a pas plus beau format que le film, que le spot. À l'époque, les 30 secondes avaient tellement de temps de s'exprimer. Mais maintenant, les spots, ils sont de 90 secondes, ils sont de 2 minutes, ils sont absolument géniaux. Quand vous avez le dernier spot de Lacoste, comment vous pouvez mettre une autre chemise qu'une chemise de Lacoste quand vous avez vu ce spot? Moi, j'ai vu 100 fois le film, à chaque fois, j'ai mis une poêle qui se hérisse, là, j'ai dit, mais il va rater son saut, il ne trouvera pas son amour de sa vie, et il s'accroche, et il s'embrasse, mais c'est ça la pub.
Oui, non, ce sont de belles définitions. Je voudrais, l'interview va bientôt malheureusement se terminer, j'avais encore plein de questions à vous poser, mais il y a quelques temps, vous avez publié un livre sur l'écologie, la publicité et l'écologie. Ma question est la suivante, comment la publicité, parce que nous sommes dans l'ère de l'écologie actuellement, c'est vraiment la mouvance qui arrive. Comment la publicité peut-elle prendre sa place au sein même d'une réflexion écologique, dans le sens où la publicité, c'est quand même assez artificiel, dans le sens, ne s'opposerait-elle pas finalement au naturel ou à la nouvelle réflexion écologique?
Mais pas du tout, la publicité n'est pas artificielle.
Je fais exprès de vous le dire pour...
Oui, la publicité c'est la vie. C'est le contraire de l'artifice. Quand la publicité est artificielle, elle n'intéresse pas les gens.
Oui.
Vous pensez que les consommateurs ont besoin d'artifice? Non. Ils ont besoin de feu d'artifice. Ça, c'est autre chose. Ils ont besoin d'une explosion de créativité, d'une explosion de beauté, d'une explosion de différence, non, d'étonnement. C'est pour ça que le vrai problème de l'écologie, c'est que l'écologie est trop grave pour qu'on la laisse dans les seules mains des écologistes. J'applaudis les écologistes parce qu'ils ont réussi à faire plier les gouvernements. Quand vous voyez que le président chinois lui-même a décidé qu'il est le pays le plus pollué du monde, qu'en 2060, la Chine serait le pays le moins pollué du monde, sur la pression même des Chinois eux-mêmes, qui sont beaucoup plus écologistes qu'on le croit. Quand on voit que Joe Biden, avant même d'être élu, a dit « je retrouverai la COP21 que tous les pays avaient signé, sauf... » C'est un imbécile heureux de Trump qui avait refusé de signer, c'est-à-dire que toutes les grandes puissances. Ça, c'est la puissance des écologistes. Mais le défaut des écologistes, c'est la politique. Si on politise l'écologie, on en détournera les terriens. Or, l'écologie ne peut réussir que si tous les terriens du monde se donnent la main, pour ce que dans mon livre, j'appelle les gestes barrières de l'écologie. C'est des gestes tout simples, tout simples. Il faut manger moins de bœuf, mais il ne faut pas supprimer la viande. On ne va pas tuer... je ne sais pas combien, des milliers de bœufs dans la terre, et puis mettre 500 000 paysans français au chômage. Non, il faut manger moins de poissons, sinon il n'y aura plus de poissons dans les mers. Voilà, il faut se limiter, il faut apprécier d'autant plus, et remercier la mer quand on mange un poisson, et remercier la terre quand on mange un bon steak. Il faut tuer le plastique, il faut refuser le plastique. Nous, ici, on a remplacé les boîtes des biens et potentiels notre client par des petites bouteilles où chacun, tout à l'heure, je savais remplir ma bouteille d'eau. Voilà. C'est des gestes simples. Il suffirait que les Parisiens acceptent de baisser d'un degré la chaleur de leurs appartements en hiver pour qu'on fasse un grand pas vers la baisse du réchauffement climatique. Lisez le livre, il y en a 7 comme ça. Et puis, il suffirait que les États se mobilisent un peu plus. Quand on pense que il y a un grand poumon de la Terre, ce sont les forêts amazoniennes. Hein, les forêts, c'est 2/3 du monde. Hein, 2/3 du monde. Et les forêts amazoniennes, c'est 50% de la forêt actuelle. Cette espèce de fou de Bolsonaro a multiplié par 4 la déforestation. Chaque fois que vous tuez un arbre, vous libérez le gaz carbonique, puisque c'est dans, dans les arbres que se terre le gaz carbonique, qui est justement le fabricant de pollution. Et deuxièmement, il faut veiller à ce que les océans puissent continuer à être le thermomètre du monde. Hein, parce que c'est de la chaleur des océans que naissent aussi les pollutions. Et d'ailleurs, les Australiens sont en train de créer des ventilateurs qui mettent par 10 mètres ou 20 mètres de fond pour refroidir la mer qui est très chaude, etc. Et justement, libérer la consommation. Là, ce sont des gestes qui ne sont qu'à la portée du gouvernement. Mais ces gestes personnels, ces gestes barrières, il suffirait que le monde dessine une bonne fois de le respecter comme il l'a fait, parce que finalement, les gestes barrières sauvent la vie de quelqu'un qui, de bambou, s'effondre parce qu'il a une crise cardiaque. Mmh. C'est 3 gestes barrières. Faut le redresser, faut lui faire un bouche à bouche, faut lui faire un massage cardiaque. Les gestes barrières du Covid, c'est 3 gestes barrières. C'est un masque, c'est se laver les mains, c'est ouvrir les fenêtres. Et bien, c'est aussi simple pour l'écologie.
D'accord. L'interview va malheureusement se terminer.
Oui, je dis bien, quand je dis écologie, c'est mon écologie à moi, c'est la soft écologie.
Oui.
C'est pas l'écologie punitive, c'est pas l'écologie de la décroissance, c'est pas l'écologie imposée, c'est l'écologie que l'on aime.
Oui, c'est ça, c'est votre propre.
Parce qu'il faut, votre écologie. Parce qu'il faut aimer la nature, parce qu'il faut aimer les animaux, parce qu'il faut aimer les terriens, et parce qu'il faut surtout aimer sa femme.
C'est une belle, je dirais, de belles paroles pour terminer. Mais je voudrais. Vous aimez citer La jeunesse est une maladie mentale dont on guérit parfois avec l'âge, et vous rajoutez ne guérissons jamais.
C'est Cervantes.
Cervantes qui dit ça, vous reprenez Cervantes. À tous les jeunes qui vous admirent, qui vous regardent, qui ont admiré, qui admirent tout ce que vous avez fait, je rappelle que vous avez couvert plus de 20 campagnes présidentielles dans le monde, vous avez publié une trentaine d'ouvrages. À tous ces jeunes qui aujourd'hui vivent dans des conditions et des moments difficiles à cause de la crise sanitaire, quel message d'espérance pouvez-vous leur adresser? À tous ceux qui vous écoutent.
Moi, j'ai eu la grande chance de connaître Jacques Prévert. Il habitait au Moulin Rouge. Le Moulin Rouge était de son appartement, qui était un petit appartement troglodyte. Il voyait les pales du Moulin Rouge, etc. J'allais déjeuner avec lui. Je me suis ma première campagne pour un produit pharmaceutique, le Glyphanan, avec lui, avec des collages de Prévert. C'est comme ça que je l'ai connu. Et on a passé une semaine où il voulait absolument être là pendant qu'il faisait ses collages. Donc j'ai passé une semaine pratiquement avec lui. Il commençait à 11h parce que c'était bien l'heure qu'il allait se réveiller. Et puis il me faisait des spaghettis. Un jour d'ailleurs, il me dit « Va me chercher le petit Robert ». Petit Robert, lui, c'est le petit Robert. Quand on prend un génissant à la librairie, là, chez le petit Robert, je le rappelle, il me dit « C'est un imbécile, c'est un camembert, petit Robert, que j'attendais. » Et quand je l'ai quitté, je lui ai dit « Quelle est la leçon de vie que tu me donnes ?» Je l'ai marié, moi, c'était ma première campagne. Il m'a dit « Il y a ceux qui croient, ceux qui croient, croient, ceux qui croient, croient, croient. Ne sois pas un corbeau, sois un aigle. » Napoléon, soit une colombe, comme Picasso. Et à tous les jeunes, je dis, ne soyez pas des croix, croyez en vous, croyez dans votre pays, croyez dans votre destin, croyez dans ce que vous faites, croyez dans l'amour, c'est ce qu'il y a le plus important au monde. Moi, la seule chose que j'ai réussi, c'est mon mariage. 45 ans de mariage avec Sophie, ma femme, on ne s'est jamais disputé. Et chaque fois que je la quitte, le matin, encore ce matin, quand je me réveille, elle me dit « Mon chéri, tu es beau, je t'aime. »
Quel problème.
Je précipite devant le miroir, je vois ma sale tête d'octogénaire décati, et je dis « Bon, ta femme t'aime, puisque l'amour est aveugle. Et je pars retrouver ma maîtresse.
Et
la maîtresse, c'est la pub. Ma maîtresse, c'est toi aujourd'hui.
Merci beaucoup, Jacques Segal. Merci pour votre humanité. Merci pour votre visage et vos regards pétillants. Pétillant de vie, croyez en l'amour. Je voudrais terminer.
C'est le plus beau slogan du monde, c'est vive la vie.
Vive la vie, vive la vie. Merci pour ces belles, ce beau slogan édifiant, si édifiant. Et je voudrais terminer par votre confrère, le publicitaire Ogilvy, David Ogilvy, qui affirme encourager l'innovation, le changement est notre force vitale. Jacques Segala, merci de nous avoir permis de passer un moment d'éternité avec vous. Merci pour votre force vitale. Je lisais que vous prendriez votre retraite à 100 ans. Vous avez encore quelques années donc avant d'arriver à cette...
Ça arrive, hein. Je suis à 13 ans. Donc je tienne.
Oui, mais vous allez tenir. Vous avez cette force vitale en vous. En tout cas, un très grand merci de m'avoir reçu. Et nous allons continuer à vous suivre. Vous êtes une très grande source d'inspiration pour nous tous. Merci infiniment, Jacques Segala.
Merci à vous. C'était la page de pub. Hein. Je n'écoutais pas. C'est du violon.
C'est du violon. Nous aimons la musique. C'est merveilleux. Merci beaucoup.